Bonjour et bienvenue à la deuxième partie des balados Action politique et démocratie. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de faire de la recherche en terrain difficile. Alors peut-être vous mettre un peu en contexte comment on fait de la recherche en sciences sociales. Il y a plusieurs stratégies de recherche qui s'offrent aux étudiants et étudiantes, mais aussi aux chercheurs. La première, c'est d'utiliser des banques de données ou des données quantitatives qui sont déjà existantes et d'essayer d'en faire une analyse. Il y a également une autre manière qui est de faire des entrevues avec des personnes en particulier qui sont pertinentes pour notre question de recherche. Et puis, il y a aussi faire du terrain de recherche ou bien faire de l'ethnographie, de l'observation, qui consiste à se déplacer soi-même en tant que chercheur sur les lieux que l'on cherche à observer, de rentrer en contact avec les personnes qui sont dans ces lieux-là, éventuellement complémenter avec des entrevues par la suite. Donc il y a différentes techniques, on va dire, et stratégies de recherche qualitative. On appelle ça de la recherche qualitative. Donc aujourd'hui, avec nos deux invités, nous allons parler de la recherche par observation, la recherche ethnographique et la recherche par entrevue. Bonjour tout le monde, Pascal Dufour pour l'émission du CAPED de la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche en terrain difficile avec nos deux invités, Priscille et Annabelle. Alors, je vais leur demander rapidement de se présenter et également de préciser peut-être sur quoi elles travaillent. Annabelle, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Annabelle Yass-Félix, doctorante au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Je travaille sur les polices communautaires en Amérique latine, plus précisément au Brésil et au Mexique. J'ai fait donc une enquête de terrain ethnographique d'environ un an au total, environ 6 mois au Brésil et 6 mois au Mexique.
Merci. Priscille, est-ce que tu pourrais te représenter rapidement?
Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. En fait, moi, mes recherches de doctorat portent effectivement sur la réincorporation des femmes ex-combattantes en Colombie. Donc, j'essaie de voir un peu les parties toutes affectives et corporelles de leur réincorporation à la vie civile, donc de leur passage du groupe armé à la population civile. Et puis, j'arrive aussi tout juste d'un terrain de quatre mois en Colombie dernièrement. 2019.
Merci. Merci pour votre présentation. Donc, je pense que vous étiez les deux personnes idéales pour nous parler du thème d'aujourd'hui, à savoir enquêter en terrain difficile. Et avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet, on pourrait se poser une première question qui est pourquoi on choisit la méthode de l'observation ethnographique ou de l'entrevue pour documenter sa thèse et pour faire sa recherche. Comment on en vient à choisir cela alors qu'on pourrait peut-être choisir un autre type de stratégie, peut-être moins coûteuse en temps, moins coûteuse aussi sur le plan émotionnel, probablement on pourra en reparler. Donc je me demandais comment vous avez finalement décidé de faire cela.
Moi de mon côté, ça a été plus parce que mon point de départ en fait, c'est de déconstruire un peu les évaluations qui sont faites sur ces polices communautaires. Et ce que je vois, c'est que ce qu'on connaît à présent, ce n'est pas suffisant et que le regard qu'on porte n'est pas pertinent, en fait, ou en tout cas pas complet. Donc pour moi, c'était vraiment nécessaire d'aller sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement et non pas se positionner, se baser en fait sur l'image qu'on nous donne. Donc pour moi, juste l'idée de faire plus de l'ethnographie, ça partait de ça, de dire que les évaluations et la connaissance qu'on a n'est pas complète et masque certaines choses qu'on voit que sur le terrain. Ensuite, pour les entretiens, c'était vraiment plus l'idée était de parler avec les gens qui sont les récepteurs, les réceptrices de la politique publique qui est la police communautaire directe, qui sont directement touchés par cette politique pour comprendre leur vécu réel, pour comprendre leur expérience et non pas se baser sur ce qu'on nous dit qui est leur vécu. Donc c'était vraiment pour avoir une image plus empirique, plus pratique du vécu. Je vais peut-être laisser Priscille dire ce qu'elle pense également.
Mm-hmm. Oui, pour moi, je pense que c'est vraiment associé à mon choix de cadre théorique aussi, parce que j'ai décidé de travailler à partir des méthodologies féministes. Nécessairement, c'est une conséquence un peu de ça, parce que j'avais envie de savoir aussi, à partir de la perspective des femmes qui ont vécu vraiment disons, la transition entre la vie militaire et vers la vie civile. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir les récits de vie de ces femmes-là, parce que, initialement, quand on raconte la guerre, on compte beaucoup les corps, mais on les raconte pas. On raconte pas le vécu corporel, le vécu émotionnel, les affects dans tout ça. Et je pense que c'est très difficile si on adopte un point de vue plutôt quantitatif ou, disons, plus axé sur la recherche documentaire, d'avoir ces données-là qui sont analysées. Je pense que les entretiens que j'ai choisi de faire, c'était des entretiens plutôt biographiques. Donc, ça laisse beaucoup de place à la personne pour pouvoir entrer dans son récit de la manière que la personne veut le faire. Donc, si elle n'a pas envie de parler de certaines choses, elle ne va pas le faire. Pour moi, c'était une méthode un peu qui me permettait de voir comment les lendemains de la guerre aussi opéraient sur les corps des personnes qui sont impliquées dans la reconstruction post-conflit.
Merci. Peut-être juste préciser pour nos auditeurs les différentes étapes qui sont nécessaires avant d'arriver à faire un terrain, dans la mesure où on parle d'ouvrir le terrain quand on est en sciences sociales, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ouvrir le terrain? Donc pour vous, comment ça s'est traduit concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez dû faire avant d'avoir ces contacts, Annabelle?
Pour moi, ça a été assez différent parce que donc, j'ai 4 cas. J'utilise 2 cas dans chaque pays, donc dans la même ville, mais des quartiers différents. Ça veut dire aussi bien du côté de la police que de la population. Donc ça veut dire créer des entrées du côté de la police, mais aussi de la population, ce qui pose des questions vraiment différentes. Dans le cas brésilien, c'est intéressant parce que quand j'y étais en 2014, c'était au moment de la Coupe du Monde, au moment des Jeux Olympiques. Et là, la police était très ouverte à la recherche et au regard international, en fait, plus globalement. Et de ce fait, j'avais réussi à avoir une carte blanche pour suivre des policiers et parler avec des policiers très, très facilement et très rapidement. Alors que là, quand j'y suis retournée en 2018, donc le contexte est complètement différent. On a un nouveau président, Bolsonaro, qui a une politique beaucoup plus conservatrice et répressive, notamment en termes de sécurité publique. Et on est en plein moment de l'intervention militaire aussi, qui a lieu à Rio de Janeiro à ce moment-là. Donc là, du côté de la police, l'entrée était beaucoup plus difficile et j'ai dû adopter d'autres stratégies. Donc là, c'était assez intéressant parce que j'allais au bataillon de la police militaire qui me répondait que c'était très dangereux et que je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait en 2014. En fait, c'est ça, les réponses que j'avais, c'était très liées à la sécurité, à ma sécurité. Parce qu'il me disait que si j'y allais, il fallait ajouter des policiers aussi pour ma sécurité, etc., etc. Donc j'ai dû adopter d'autres stratégies, mais c'était assez intéressant de voir entre 2014 et 2018 que l'entrée se fait de façon complètement différente. Du côté de la population, moi, ma stratégie, ça a plutôt été d'une part, de faire une espèce de cartographie des acteurs et des organisations, des associations qui sont dans ces quartiers, de parler avec eux, de comprendre ce qu'ils font, leurs besoins, etc., pour éventuellement m'insérer dans ces réseaux-là, puis apporter une aide bénévole ou volontaire dans des associations pour ensuite commencer à comprendre un petit peu en fait, le quotidien dans ces quartiers. Donc je dirais que du côté de la population, c'était vraiment plus une entrée par le bénévolat ou le volontariat. Au Mexique, c'était un petit peu différent. Parce que d'une part, je suis dans deux endroits vraiment différents. Un quartier de Mexico qui est considéré comme le quartier, un des quartiers les plus difficiles, Tepito, où la police était clairement pas très ouverte à ma venue. Disons qu'il l'était officiellement sur papier, mais quand il s'agissait d'aller avec eux pour faire des observations, on m'emmenait dans d'autres quartiers. Donc, à ce moment-là, il fallait que je fasse semblant de croire que c'était Tepito. C'était assez intéressant. Mais dans l'autre endroit où j'ai été, qui est Nezahualcoyotl, qui est une municipalité qui est dans l'État de Mexico, mais qui n'est pas dans Mexico même, là, au contraire, la police était très ouverte. Et mon entrée a été facilitée par un professeur d'une université à Mexico qui connaissait très bien le directeur de la police, qui a un doctorat en sociologie, qui a toute une trajectoire de vie très intéressante. Donc, ce qui fait que je dirais que mes entrées sont vraiment différentes d'un cas à un autre, d'un quartier à un autre, et que ça dépend vraiment du contexte, mais aussi des personnes qui sont impliquées dans les terrains.
Priscille ?
Oui, moi, le contexte, un peu comme Annabelle dit aussi, le contexte a beaucoup changé en Amérique latine durant la thèse de doctorat, donc ça implique beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choix méthodologiques, puis j'ai décidé de faire un pré-terrain pour pouvoir, disons, un peu mesurer l'ampleur de la situation, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé entre une des guérillas les plus anciennes de l'Amérique latine, les forces armées révolutionnaires de Colombie, en 2016. Donc, ça a changé beaucoup la conjoncture politique du pays. Et puis, donc, j'ai fait un pré-terrain pour reprendre le pouls un peu de la situation aussi et un peu réactiver les contacts aussi qui peuvent servir pour commencer à penser les questions de recherche avant d'entamer tout le processus aussi de collecte de données. Disons que ça, j'ai fait ça en début d'année 2019. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des groupes féministes qui étaient quand même assez formés depuis l'accord de paix. Et donc, ça l'a facilité beaucoup, disons, mon approche avec le terrain. Ce qui est plus difficile, en fait, c'est le contexte de guerre qui continue. C'est pas parce qu'on a signé un accord de paix avec un des groupes armés que le contexte est mieux, en fait. Ça s'améliore, mais disons qu'il reste encore plusieurs groupes, donc la sécurité reste un enjeu majeur. Je pense que les alliances féministes ont vraiment servi dans ce contexte-là, autant du point de vue de la protection ou des solidarités qui se créent sur le terrain. Et je pense que les étapes sont souvent méconnues des doctorants et des doctorantes avant de commencer ce terrain. Je pense que c'est bien qu'on en vulgarise aussi les étapes. Il y a toujours l'étape aussi d'avoir les accords éthiques, et ça a un impact directement sur le terrain de recherche aussi, parce que le consentement, tout ce qui a rapport à l'éthique de recherche va influencer aussi le terrain avec qui tu vas devoir parler. Moi, par exemple, il y avait des zones où est-ce que je pouvais pas aller sans y aller avec l'ONU. Donc, ça met un intermédiaire dans mon terrain de recherche que je n'avais pas tellement prévu au début, parce que les conditions ont changé au fur et à mesure que mon terrain avançait. Par exemple, au mois d'août, quand j'étais en plein terrain, il y a une partie des FARC qui se sont réarmées. Donc, ça a changé aussi la donne politique. Puis ça devient aussi, même si tu ne veux pas être associé, tu fais une recherche sur les femmes qui ont été dans les FARC. Donc, il va y avoir nécessairement des enjeux politiques à ton terrain de recherche. Donc, je pense que ces étapes-là, il ne faut pas les sous-estimer parce que c'est aussi des contacts avec tout plein d'intermédiaires qui font aussi partie d'une espèce de contexte de post-conflit où il y a des organisations internationales, où il y a des intermédiaires aussi, des journalistes. Il y a tout plein de gens qui veulent avoir des informations sur le récent désarmement des FARC. Donc, ça met tout plein d'acteurs et des fois, la distinction entre le journaliste et le chercheur ou la chercheuse peut être vraiment difficile pour certaines personnes à voir. Donc, je pense que ça peut poser beaucoup d'enjeux. J'ai aussi senti un peu la même chose qu'Annabelle du point de vue du contexte en Amérique latine qui a changé beaucoup. Je pense que c'est pas négligeable aussi qu'il y ait des mobilisations qui se font de l'extrême droite aussi contre, par exemple, les études féministes et tout ça. Donc, ça devient un contexte aussi qui est assez difficile pour la recherche. Je pense que toutes ces données-là aussi, faut en prendre compte au moment où est-ce que on s'engage sur le terrain de recherche. Puis, je pense que finalement, c'est aussi à travers les différents contacts qu'on va s'assurer de un peu du déroulement de notre terrain, parce que ce sont effectivement les personnes avec qui on va dialoguer qui vont nous aider, qui vont nous expliquer aussi beaucoup mieux le contexte local dans lequel on s'insère aussi.
Merci. Merci à toutes les deux. Je me demandais quelles étaient les principales difficultés que vous aviez pu rencontrer au cours de l'observation, au cours, ou bien au cours des entrevues, ou même avant de partir. Mais est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez partager avec nous qui concerneraient davantage les difficultés de poursuivre ou de rentrer sur le terrain?
Moi, de mon côté, il y a eu plusieurs types de difficultés. Il y en a un dont je me souviens qui est assez marquant, qui est à Rio, en fait. J'avais prévu d'étudier deux favelas en particulier. Donc, des favelas, c'est les quartiers populaires à Rio qui sont souvent basés, en fait, dans ce qu'ils appellent des collines, des morros. Il y en a une qui n'était pas un morro, qui est une toute petite favela qui n'est vraiment pas étudiée et qui me semblait vraiment intéressante. Et l'entrée a été très, très difficile. Je n'avais pas vraiment de réponse de la part des associations, des organisations ou d'autres personnes que j'essayais de contacter. Et quand j'ai été sur place, j'y étais plusieurs fois. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une part, les groupes qui lead, qui sont un peu, qui régissent cet endroit-là, sont des groupes composés par des gens vraiment très jeunes, des jeunes hommes de, je dirais, entre 14 et 16 ans grand maximum. Ce qui fait que c'est un contexte très particulier, évidemment armé. Donc, ce qui fait que les premiers jours où j'y étais, je sentais comme quelque chose de lourd. Et en fait, quand j'ai essayé quand même d'y retourner plusieurs fois, je sentais que j'étais vraiment trop regardée, puis que j'étais pas à ma place. Donc, c'est là où j'ai décidé d'abandonner ce cas-ci et d'en choisir un autre que j'ai pris dans la même zone, hein, dans la zone nord de Rio, qui est une zone un peu plus populaire que la zone sud, qui est où on concentre toutes les activités un peu touristiques, où les personnes plus aisées vivent. Donc, à la place, j'ai choisi une autre favela, mais ça, je dirais que ça a été une des limites que j'ai eues au tout début, à laquelle donc, je me suis adaptée assez rapidement. Après, une autre chose qui est assez particulière dans ce contexte, c'est que nous, on arrive évidemment d'ici, de Montréal. Donc, le port d'armes, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et de ce fait, quand on va sur le terrain faire des observations et qu'en fait, les armes sont omniprésentes, et d'autant plus quand elles sont portées par des jeunes personnes, ça a quelque chose d'un peu choquant. Donc, je dirais que les premiers jours, pour moi, c'était un petit peu juste normaliser et accepter ce nouveau contexte. Ça m'a pris un peu de temps. Et surtout, il faut rester à l'aise. Il ne faut pas non plus montrer qu'on a peur. Sinon, il peut y avoir des conséquences qu'on ne contrôle pas. Donc, il faut rester à l'aise. Il faut se fondre un petit peu dans la masse. Donc, je dirais que les premiers jours, c'était surtout de normaliser, puis d'accepter que ça, c'était un contexte normal. Ça serait une des choses à laquelle je pense aussi. Puis après, pour revenir un petit peu sur le Mexique, sur Tepito, c'était d'accepter que finalement la police ne va pas me laisser aller voir ce qui se passe à Tepito. Mais quand même, de garder un espèce de cadre de sécurité où on leur dit oui, je crois ce que vous me dites. Parce que c'est vrai que quand je me promenais à Tepito, je recevais toujours des messages de la police, de la délégation de ce quartier-là, qui me demandaient comment ça allait ou des choses comme ça. Donc c'est aussi un petit peu de prendre en compte qu'on est observé, qu'on n'est pas à notre place et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait quand même.
Oui, je pense que je vais rebondir tout de suite sur ça. Je pense que le fait de connaître bien le terrain semble ne jamais arriver à sa fin parce que c'est toujours une espèce de connaître et reconnaître parce que c'est des transformations constantes et c'est de l'adaptation constante. Je pense que ça, il faut être vraiment consciente quand on s'en va sur le terrain de recherche, que ça va toujours être changeant, que les peurs vont être changeantes aussi, que les émotions vont être changeantes. Je pense que pour moi, les difficultés ont été un peu de trois ordres en général, émotionnel, sécuritaire et d'accès au terrain, disons. Et puis, troisièmement, je pense que j'irai avec aussi toutes les l'éthique de la recherche, qui, en fait, disons, dans la formation universitaire, c'est un peu difficile de voir comment on va s'adapter à ces types de terrains-là. On n'a pas nécessairement la formation qui vient avec au moment où est-ce qu'on, disons, on sort de notre bulle de doctorant-doctorante. Je pense qu'on arrive aussi à se rendre compte qu'on n'avait peut-être pas tous les outils avant d'arriver sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est une première réalité que j'ai dû accepter, que je devais m'adapter tous les jours à ce terrain-là de recherche. C'était constant. Et au point de vue de l'éthique, pour moi, il y a eu cette difficulté de... J'ai des données qui peuvent être très sensibles, qui peuvent être politiquement utilisées contre les personnes que j'ai fait des entretiens avec qui j'ai fait des entretiens. Donc, je pense que pour moi, ça, c'était une source de stress constante parce que c'était comme, OK, il faut que je code tous mes appareils, il faut vraiment que personne ait accès à ça. Mon Dieu, j'ai pas eu le temps de transférer mes données, qu'est-ce que je vais faire? Puis, je veux dire... L'éthique te demande toujours de garder tes données sous code sécurisé, mais souvent, j'étais dans des territoires où est-ce que j'avais aucun accès à l'informatique. Donc, c'était avec moi qui étaient mes données et j'étais le seul obstacle avant d'atteindre les données, en fait. Donc, c'était vraiment pas garanti. Et ça, je pense que c'est important qu'on le mentionne parce que la réalité de tous les jours du terrain est pas nécessairement comme c'est écrit sur le papier de l'éthique. Donc, pour moi, c'était quand même une angoisse constante de penser à ces données-là de recherche parce que je savais aussi que les personnes avec qui j'avais fait les entretiens avaient confiance en moi sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il y a des mécanismes qu'on peut se donner, mais c'est jamais, disons, infaillible. Et ça va beaucoup lier à l'autre difficulté de la sécurité sur le terrain. Je pense qu'Annabelle a vraiment fait un tour des enjeux aussi, des rapports de pouvoir qui se présentent entre toutes les personnes qui vont être impliquées dans la recherche et qu'on n'avait peut-être pas prévu qu'elles allaient être impliquées dans cette recherche. Et je pense que c'est un peu des négociations constantes qui se font pour pouvoir parler à certaines personnes ou avoir la confiance. Nous, par exemple, pendant le terrain de recherche, il était en élection en Colombie. Donc, il y avait tout plein de monde qui était super méfiant, méfiante parce que ils disaient, mais pourquoi cette personne-là veut me parler à ce moment-ci, alors que ça avait pas rien à voir nécessairement avec l'élection, mais c'est politique. Donc, je pense qu'il y a aussi il y a le contexte et il y a la méfiance de aussi parce qu'il y a eu beaucoup de répression en général en Amérique latine sur les personnes qui pensent différemment aussi. Puis, je pense que l'enjeu majeur est l'enjeu émotionnel dans le terrain de recherche. Les questions qu'on traite sont souvent très sensibles. Donc, ça implique que la chercheuse aussi va se retrouver dans des situations où les émotions sont mobilisées beaucoup durant les entretiens. Moi, j'ai fait plusieurs entretiens où est-ce que les entretiens peuvent durer entre 3 et 4 heures parce que, justement, j'adopte cette perspective-là de me dire c'est la personne qui décide de me raconter ce qu'elle veut me raconter autour du sujet qu'on a décidé ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment, il faut être consciente que ces émotions-là, on ne vous en parle pas nécessairement à l'université, de vous dire, OK, il va avoir des grosses implications donc émotionnelles. Et l'angoisse de planifier tout le terrain aussi qui n'arrive jamais comme vous l'avez planifié. Donc, je pense que ça, c'est important aussi de voir que ça crée certaines tensions émotionnelles. Et puis, ces sentiments d'impuissance-là aussi, d'aller un peu moins dans les zones où est-ce que je suis allée, la guerre est encore super présente. Donc, on a un peu l'impression qu'on délaisse après qu'on est allé discuter. Personnellement, je considère que j'ai créé des amitiés à travers mon terrain de recherche, que je continue à parler avec plusieurs des femmes avec qui j'ai eu les entretiens. Mais on sait, justement, parce qu'on peut continuer à leur parler que leur situation est loin de s'améliorer. Donc, je pense qu'il y a tous ces enjeux-là de militarisation constante de leur vie qui est très difficile à ramener. Donc, il y a aussi les temps du terrain, non? Il y a l'avant, le pendant, l'après. Où est-ce qu'on parle? On parle pas nécessairement du retour non plus du terrain et c'est parfois difficile d'en parler autour de nous parce que les gens n'étaient pas avec nous. Donc, c'est difficile de faire le processus émotionnel du retour aussi.
C'est intéressant l'idée du retour, justement, mais un des enjeux qu'on aborde des fois en méthodologie, c'est la question de la sortie du terrain. Mmh. Et donc de savoir qu'est-ce que ça veut dire la sortie du terrain, ça veut dire en gros quand est-ce qu'on arrête, premièrement. Donc quand est-ce qu'on décide d'arrêter, outre le fait qu'on a peut-être un billet d'avion dans votre cas. Mais après, on peut toujours avoir l'envie ou le sentiment qu'il faudrait y retourner pour en savoir plus ou pour savoir autre chose ou pour avoir un complément. Donc cette question de la sortie du terrain, de quand est-ce qu'on s'arrête, mais aussi de comment on gère par rapport aux personnes qu'on a rencontrées, comment on gère cette sortie-là. Je pense que c'est un élément qui est effectivement très important dans la recherche qualitative. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, moi, j'ai vraiment eu, dans mon cas, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à gérer le retour, en fait. Pour moi, ça a été un peu comme... il y avait un fort sentiment d'imposteur, un fort sentiment d'abandon, où effectivement, comme disait Priscille, on connecte avec des gens qui nous font confiance et qui nous racontent une grosse partie de leur vie, qui sont parfois des choses vraiment très difficiles à entendre et moi qui me semblerait difficile à partager. Donc repartir, surtout dans des contextes comme ceux-là, où dans les favelas ou dans les quartiers populaires, on n'a pas forcément accès à l'électricité tous les jours, il y a des problèmes d'eau, des problèmes, enfin des services, des choses que nous on a accès ici tous les jours, que là-bas, ils n'ont pas. Je trouve que ça a été difficile de revenir dans mon petit monde parfait avec tous mes petits services où tout va bien. Et juste penser à ces gens-là en se disant, tu sais, c'est facile pour moi d'y aller, de prendre des informations, même si je suis dans une logique que j'appelais don contre don, parce que j'essayais quand même de participer à la vie associative, etc., et ne pas juste arriver, prendre mes données et repartir. Mais malgré ça, ils m'ont donné une partie d'eux. Et moi, je n'ai pas l'impression d'avoir pu donner autant. Et de ce fait, quand on revient, c'est vraiment difficile, je trouve, à gérer ce sentiment de... moi, je reviens à mon petit quotidien qui est assez facile ici. Et eux, ils restent là-bas. Et effectivement, on peut continuer à les contacter, puis à avoir des nouvelles, etc. Mais il y a une espèce de sentiment d'impuissance où on aimerait pouvoir faire plus. Et on sait qu'on aurait quelques outils pour aider certaines questions, notamment sur notre sujet à nous, qui pourraient peut-être apporter des micro-changements, sans que ça vienne changer le monde, évidemment. On n'est pas Superman ou Superwoman, mais on espère. Mais, ouais. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'était vraiment difficile à gérer en termes d'émotions sur le retour et d'accepter effectivement qu'il fallait que c'était fini, parce que finalement, en terrain, ça peut ne jamais s'arrêter. Et nous, la chance qu'on a dans notre cas, c'est qu'effectivement, il y a un billet d'avion qui nous dit il y a une date, ça c'est la fin. Après, il y a aussi la question de est-ce que je dois revenir pour prendre plus de données, pour réactualiser. Ça peut être un espèce de cercle sans fin où finalement les données continuent de rentrer, puis on continue de revenir, etc. Je trouve que c'est important aussi à un moment donné d'accepter. Pour moi, ça a été un processus aussi à passer, là, l'acceptation que c'était fini, puis que j'allais faire ma thèse avec ces données. Là. Mais je trouve qu'effectivement, en termes d'émotion, le retour n'est pas évident et on n'en parle pas du tout. Et on n'a pas vraiment beaucoup d'outils pour essayer de... pas d'espace, enfin en tout cas, les espaces, on peut en avoir. On peut créer des espaces de retour de terrain où on partage ce qu'on a vécu, puis comment on se sent. Mais on sent quand même une sorte d'impuissance en face aussi, où en fait, on n'a pas d'outils, puis on ne sait pas comment y penser à ces questions. Donc je pense que c'est important d'en parler.
Priscille.
Tout à fait. Moi aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Annabelle, parce que je pense qu'il y a le retour de terrain est fait de plusieurs phases aussi. Donc, on pense que c'est juste, effectivement, je reviens, là, j'analyse mes données. Moi, personnellement, j'ai pas été capable de regarder mes données avant 2 mois après être revenue parce que j'étais trop sensible, c'était trop émotionnel, j'avais vécu trop de choses par rapport à ça. Donc, je pense que c'était d'accepter aussi que ce retour de terrain-là avait des étapes. Que le billet d'avion était peut-être la première, mais que finalement, après, quand je revenais ici, il y a eu des étapes de commencer à parler de mon sujet, de commencer à en discuter juste avec ma famille, mes amis, puis après de, peut-être donner une mini-conférence pour essayer de vulgariser un peu qu'est-ce que j'avais vu, qu'est-ce que j'avais senti, puis après de me lancer dans l'analyse réelle des entretiens et tout ça, qui ont été beaucoup chargés. Moi, dans mon cas, personnellement, j'ai eu des émotions fortes, j'ai pleuré, j'ai été très touchée par ça personnellement. Donc, je pense que ça en soi aussi, c'est un peu, je sais pas, c'est bizarre de dire que c'est une donnée, là, mais c'est un peu aussi, ça fait partie de ce que c'est la méthodologie de recherche féministe aussi. Et donc, je pense qu'il y a à remettre en question cette idée-là de saturation des données, parce qu'à un moment donné, ce ne sera jamais assez, tu sais. Je pense que la saturation des données aussi vient avec l'idée un peu positiviste de ce que c'est la recherche. Et je pense que l'observation participante vient ébranler beaucoup de certitudes sur ça, parce que les subjectivités des personnes rencontrées, les différents territoires, la contextualisation géographique, par exemple, moi, je m'attendais pas. Tu sais, j'avais vu mon terrain de recherche, la région que j'avais choisie, qui est plus vers la frontière avec le Venezuela. J'avais anticipé que ça allait être une frontière très difficile, un endroit très difficile à travailler, mais j'avais pas anticipé toutes les barrières physiques pour accéder à mon terrain, toutes les barrières aussi que les personnes allaient avoir pour pouvoir me parler. Donc, c'est des choses qu'après, il faut reprendre en compte dans ça, et que, évidemment, j'aurais pas pu faire plus d'entretien avec le temps que j'avais, avec les ressources que j'avais, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un enjeu économique à faire du terrain de recherche aussi. Parfois, il fallait que je me déplace sur 8-12 heures de voiture, comme... Il faut quand même que tu aies quelqu'un qui a un contact par l'ONU, etc. Donc, il y a tous des enjeux que moi, personnellement, j'avais même pas calculé dans mon budget personnel aussi de recherche. Donc, je pense que c'est des enjeux qui, après, dans la question de la saturation des données, ben il y a aussi, à un moment donné, il faut qu'il y ait un point sur les réflexions. Et je pense que des fois, on sous-estime aussi tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu, toutes les interactions qu'on a pu avoir, finalement, qui sont aussi des données super pertinentes de recherche. Donc, définitivement, les temps de terrain sont très peu discutés. Puis je pense que ça serait vraiment important d'en faire davantage, ou d'avoir des groupes où est-ce qu'on peut partager ça, effectivement.
Merci beaucoup. Pour terminer, peut-être, je pense que ça pourrait être intéressant de se poser une question un petit peu plus large que directement liée à vos terrains de recherche ou à vos thèses. Mais je vous demanderais d'avoir comme peut-être un pied en arrière, un pas de recul par rapport à ça. Mais est-ce que on doit faire de la recherche en sciences sociales à tout prix? Ou est-ce que il y a une limite à la connaissance?
Moi, je pense que ça, c'est une question vraiment pertinente et qu'il faut se poser et qu'on a peur de se poser. Et c'est une question que j'ai déjà posée ou qu'on a déjà discuté dans certains espaces. Et la réponse générale que j'ai, c'est quand on est chercheur, on a besoin de faire de la recherche, puis on a besoin de données, puis c'est ça qu'on produit. Et moi, je trouve que c'est dangereux, en fait, c'est une pente glissante de penser comme ça, parce que ça veut dire qu'effectivement, on ne met pas de limite à la recherche, parce qu'il faut qu'on produise. Et tout ça, ça vient aussi avec le contexte à la productivité là, de l'université qu'il faut peut-être questionner. Mais il me semble que pour moi, on ne peut pas faire de la recherche à tout prix, parce qu'il y a des conséquences, et notamment en sciences sociales, on étudie des êtres humains. Donc ça a des conséquences sur des personnes directement. Et je trouve que c'est important et même essentiel de se poser la question de notre place et des conséquences qu'on va avoir sur ces personnes. Parce que nous, par exemple, dans notre cas, c'est facile d'y aller, de prendre nos données puis de repartir. Parce que nous, on part. Mais les personnes avec lesquelles on a parlé restent. Elles vont vivre ici. Et si on n'est pas assez prudente et qu'on ne fait pas attention au contexte, aux interactions dans lesquelles ont lieu ces dynamiques-là, Ça peut avoir des conséquences vraiment graves, et il me semble que c'est vraiment, ça fait partie aussi de notre devoir de se poser cette question. Donc pour moi, à partir du moment où on met en danger les personnes avec lesquelles on travaille, c'est pas possible. Se mettre en danger soi-même aussi, c'est une question, évidemment. Faire de la recherche, c'est bien, mais être en vie, c'est mieux, je pense. Donc pour moi, il y a quand même des limites qu'il faut se poser, non seulement en termes de danger de vie, mais aussi en termes éthiques. C'est sûr que moi, quand je vais sur le terrain, je suis une femme blanche qui va dans des quartiers populaires qui sont en général fortement racisés. Donc ça pose aussi une question de moi, ma position dans ces espaces-là. Et c'est sûr que même si je veux pas et que j'ai toute la bonne volonté du monde et que j'ai une démarche féministe, etc., je vais avoir quand même cette position de femme blanche dominante. Et aussi parce que je suis d'une université, je suis académique. Donc il y a quand même certaines couches qui viennent se superposer, qui font que même si j'essaie d'adopter une démarche qui est plus éthique, je vais avoir une positionnalité qui est différente. Et il me semble qu'il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser ces questions de qui je suis et quels sont mes effets sur le terrain. Même en prenant en compte toutes les stratégies qu'on veut, quels vont être mes effets sur le court terme, mais aussi sur le long terme sur ces personnes-là. Parce que c'est, on ne peut pas considérer que la recherche, c'est juste prendre des données auprès de personnes et c'est tout. Non, c'est juste... on a des conséquences, on a des effets. Les questions qu'on pose, où est-ce qu'on les pose, ça a des effets. Par exemple, si je fais un entretien au sein d'un quartier et que tout le monde l'entend, ça peut avoir des graves conséquences. Donc, pour moi, c'est vraiment des questions importantes qu'il faut se poser et j'ai l'impression qu'on a un petit peu peur de se poser encore, mais qui sont vraiment fondamentales.
Merci. Priscille ?
Je pense que la réponse d'Annabelle est très complète. J'ajouterais peut-être qu'effectivement, pour moi, non. La réponse, c'est non. Je pense pas qu'on doit faire la recherche à tout prix parce qu'il faut se ramener effectivement à pourquoi on fait de la recherche, finalement. Et je pense que si, en sciences sociales, c'est pas effectivement pour améliorer certaines conditions sociales, je pense qu'on est en train vraiment d'aller passer à côté de la traque. Je pense que la vie est vraiment le point central là-dedans. Pour moi, ça a été une question constante pendant tout mon terrain parce que plusieurs fois, j'ai senti le danger autant pour les participantes que pour moi-même. Mais je pense que c'est vraiment se poser la question pour la vie. C'est souvent, on est dans des problématiques. Je pense que les deux sujets qu'on aborde aujourd'hui, dans des problématiques où il y a certaines vies qui comptent plus que d'autres. Et ce qu'on essaie de faire avec nos recherches, c'est justement de visibiliser un peu ces problématiques-là. Donc, si on fait de la recherche à tout prix, on va un peu à l'encontre de notre objectif, de notre premier objectif. Et comme Annabelle dit, il y a tout plein de relations de pouvoir qui s'instaurent, des rapports de pouvoir qui sont finalement... on peut pas nier qu'ils sont là et puis il faut juste essayer de voir comment on peut diminuer ces hiérarchies-là. Et je pense qu'il y a des alliances possibles qui... tantôt, on parlait de comment le terrain peut ne jamais terminer, mais en fait, il y a un point positif aussi à ça, c'est d'essayer de penser... en fait, les personnes avec qui on fait des entretiens, ils sont souvent soit même des activistes sociaux, des personnes qui vont être impliquées beaucoup socialement dans leur milieu. Donc, il y a une manière aussi à ce qu'on serve nous, qui nous utilisent aussi pour certaines fins. Et c'est très bien parce que ça peut renverser un peu les rapports de pouvoir, donc créer des alliances aussi qui pourraient servir finalement à changer certaines de leurs conditions de vie et accepter l'agentivité de ces personnes-là aussi qui, souvent, c'est un point de vue politique aussi de prendre part à notre recherche parce que c'est on veut faire connaître aussi le travail ou le point de vue situé. Donc je pense que ça peut aussi pas nécessairement juste être nous qui va chercher des données, mais il y a aussi l'autre côté qu'on a tendance à ne pas voir et je pense que c'est important de reconnaître cette agentivité là et de savoir que elles prennent souvent des risques parce qu'elles veulent nous parler aussi de ce qu'elles ont vécu. Donc je pense que ça c'est aussi le revers de la médaille, mais il y a aussi tout ce qui a à voir à les sensibilités des chercheurs sur le terrain. Parce que finalement, il peut avoir même des risques un peu d'enclicage, si vous voulez, de parce que les sensibilités sur les mouvements sociaux peuvent amener la chercheuse ou le chercheur à sentir aussi des intérêts communs. Donc, ça peut être très positif, mais ça peut aussi avoir des conséquences très négatives sur la recherche. Donc, il y a tout plein de d'enjeux sur la recherche à tout prix, là, je pense.
Ce serait très intéressant de poursuivre cette discussion sur le volet de l'écriture, notamment. Je pense que ce que vous avez mentionné sur la nécessité de se poser les bonnes questions et de bien concevoir les conséquences de notre recherche se poursuit. Donc, ça ne s'arrête pas une fois que le terrain est terminé. Ça se poursuit aussi au moment où on écrit, au moment où on publie. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, pourquoi on le dit, pourquoi on ne dit pas. Je pense que ça pourrait faire, pourquoi pas, le sujet d'une prochaine émission. Merci beaucoup pour votre participation.
Merci.
Merci.